Alors j'ai le grand plaisir de saluer parmi nous Madame Françoise Dubusson, qui est chargée de cours à l'Haute École de Gestion de Genève, qui est aussi un membre du conseil de Fondation Gustave Ador et naturellement aussi de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. C'est une des personnes qui a énormément aidé à organiser ce colloque aujourd'hui ici, quelqu'un de très très actif dans tout ce domaine, et je lui donne volontiers la parole. Je vous en prie.
Merci Madame la Présidente. Et il faut reconnaître que prendre la parole après Roger Durand n'est pas une chose facile. Et d'autant qu'au seuil de ces deux journées de réflexion autour du souvenir de Solferino, j'aimerais, si vous me le permettez, vous ramener quelques décennies en arrière. À l'invitation d'ailleurs d'Henri Dunant lui-même, qui souligne dans ses mémoires que l'illumination du souvenir de Solferino a été bien préparée, je cite, par son éducation et sa sensibilité. Il ajoute, il faut que l'instrument soit préparé à l'avance pour le travail auquel il est réservé. C'est une vision assez triviale, me direz-vous, mais c'est quand même une trivialité qui, je crois, vaut la peine d'être explorée. Une œuvre, c'est évidemment un acte individuel, mais c'est aussi un acte social qui est lu et compris dans un cadre référentiel commun à l'auteur et à son public. Donc mon but ce matin est double. Dans un premier temps, j'aimerais mieux cerner l'idéal stylistique, l'imaginaire que Dunant a pu acquérir durant tout de même ses 4 années de collège, même si elles ne se sont pas très bien terminées. Et puis dans un deuxième temps, toujours sur la base d'ailleurs de textes et d'ouvrages dont Dunant souligne l'importance dans sa vie, j'aimerais m'arrêter sur 2 titres qui ont véritablement transformé leur époque, leur auteur, peut-être aussi un peu Dunant, chacun à sa manière. Peut-être un peu ambitieux, mais j'aimerais cerner mieux l'horizon commun d'attente entre Dunant et ses contemporains en ces années entre 1840 et 1850-55. Lorsqu'il rejoint le collège en 6e année, Henri Dunant bénéficie d'un nouveau programme, tout juste issu d'une loi de 1836. Il suit 3 années de collège entre 1838 et 1843, 3 années, les 3 premières, 6e, 4e et 5e et 4e, qui sont destinées à l'enseignement des langues latines et françaises, la géographie moderne et l'histoire, et puis également de la religion. Alors le latin, c'est le moins qu'on puisse dire, domine. 12 heures par semaine en 6e année, 13 heures en 5e et 14 heures en 4e. Il doit être soulagé d'arrêter, je crois. L'enseignement du français, lui, suit une évolution contraire, puisqu'on passe de 7 heures en 6e à 5 heures en 4e. Il fallait bien placer le latin. L'histoire et la géographie sont enseignées durant 5 heures par semaine. Et la religion, là où justement le jeune Dunant excelle, n'est enseignée que 2 heures. Donc, lorsqu'il quitte le collège en 4e année, Henri Dunant n'a pas du tout touché à la langue grecque. Il connaît bien d'ailleurs, mais il ne connaît que la grammaire latine à fond, mais par de très courts extraits de manuels de grammaire et de stylistique. Aucune science, ça n'est abordé dans aucun domaine, peut-être un petit peu de science naturelle en géographie. Les journées sont longues, on commence à 7h, on termine à 15h ou à 16h, ça dépend des jours, avec tout de même 2 heures libres entre 11h et 13h, ces fameuses heures, vous vous souvenez, ces mémoires, qu'il occupe, soit chez sa tante Sophie, soit au Bastion, à se plonger dans des lectures qui, je cite, « sont captivantes », qui transportaient mon esprit facilement impressionnable dans les régions mêmes où se déroulaient les péripéties des histoires que je lisais. Je vais vous décevoir, mais je vais vous épargner la liste des manuels de grammaire latine et française que Dunant a subi dans ses années de collège. Je les laisserai aux lecteurs patients des actes. J'aimerais en effet me concentrer sur un ouvrage que Dunant n'a pas seulement eu en main, ce qui peut toujours arriver avec un manuel scolaire, mais qu'il a vraiment lu, puisqu'il en cite des extraits dans des lettres à ses camarades plus tard, dans les années 50 encore, de l'Union chrétienne. C'est la Christomathie française, ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français, d'Alexandre Vinet. Vinet, on connaît le prédicateur, talentueux, le membre actif et influent du Réveil, essentiellement vaudois. Mais c'est aussi un critique littéraire fin, très apprécié à Paris, ami de Sainte-Beuve, qui lui consacre plusieurs articles, notamment dans la Revue des Deux Mondes. Vinet est enfin un pédagogue formé sur le terrain, ça a son importance. Le terrain en plus de l'enseignement du français comme langue étrangère, puisqu'il enseigne pendant 20 ans au gymnase de Bâle. Et cette confrontation de la difficulté d'enseigner du français en commençant par la grammaire l'amène à publier en 1829 un ouvrage qui va avoir un succès considérable, qui va être imprimé à Paris, à Bruxelles, qui va former des générations d'étudiants, à tel point qu'il aura d'ailleurs assez mauvaise réputation dans les années 1940, quand on l'utilisera encore. Mais en 1829, c'est un ouvrage novateur. Des chrestomathies, donc des recueils de textes des plus belles œuvres de la littérature française, on en connaît déjà, et Vinet le reconnaît lui-même. Mais lui amène deux nouveautés. D'abord, des textes relativement longs. Il est contre cette succession de beaux morceaux courts. D'abord, il estime qu'il faut habituer les élèves à la patience et à la persévérance, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Mais ensuite, ça permet de mieux faire prendre conscience que la beauté de la langue, elle est aussi dans la composition, pas seulement dans la beauté du vocabulaire, dans les belles phrases. Et ensuite, il applique un système de gradation. C'est le même volume, mais décliné en trois tomes. Le premier est destiné aux enfants, celui qu'a eu Henri Dunant en main, qu'il a lu, aux enfants de 12 à 14 ans. Il y a ensuite un deuxième volume pour les 14-16 ans, et enfin un volume pour les adultes, jeunes et moins jeunes, sur lequel je vais revenir. Ce premier volume, on sait que Dunant l'a lu, il en a même peut-être... pardon... appris des passages entiers, puisqu'il cite dans une de ses lettres en 52 à un de ses amis, Édouard Monnier, un passage d'un poème qui a dû faire vibrer sa fibre sociale, un poème qui s'intitule « Le petit Savoyard » et qui est une histoire épouvantable d'un tout jeune Savoyard d'une dizaine d'années dont la mère, veuve, est malade. Le petit Savoyard doit partir à Paris, essayer de gagner un peu d'argent, et ça se passe extrêmement mal. Il a faim, il a froid, il est dans la misère, il s'endort une nuit d'hiver, il va mourir, et non, juste à ce moment-là, deux dames, deux très belles âmes, le relèvent, le nourrissent, le retapent et le renvoient chez lui avec un peu d'argent, un pain de froment, et il arrive juste au moment, au bon moment, pour pouvoir s'occuper de sa mère malade. Dunant est frappé par deux choses, l'aspect social certainement, mais aussi par les très belles descriptions des Alpes. Ce jeune Savoyard, les Alpes lui manquent, et quand il voit ses Alpes natales, il a de très beaux mots à ce sujet. Mais j'aimerais aussi m'arrêter sur le troisième volume. Le troisième volume est extrêmement intéressant, il est destiné donc aux jeunes et moins jeunes adultes, et c'est là qu'on trouve des auteurs contemporains. Vinet est un amateur absolu de Pascal, il adore Pascal, et dans le deuxième volume, pour les 14-16 ans, il y a beaucoup de Bossuet, de Pascal, qui ont dû un petit peu ennuyer les élèves. Mais le troisième volume a dû rattraper la chose, on y lit du Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Alfred de Vigny, je vous le rappelle, on est en 1829-1830. Et même un texte extrêmement intéressant qui vient de paraître, signé de Prosper Mérimée, et qui est d'une violence extrêmement étonnante par rapport au reste du texte. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça passerait dans ce genre de manuel. Ça s'intitule « La prise de la redoute ». C'est un vrai récit de guerre. C'est avec tous les épisodes, une longue veillée d'armes, la peur du jeune héros frais et moulu de l'école militaire, l'ordre de marche, puis dans l'exaltation, les boulets, ça lui fait pas trop peur, il voit que ça lui passe par-dessus, les obus, ça c'est autre chose, puis les balles de mousquet, et enfin la charge à la baïonnette, qui laisse notre jeune lieutenant, je cite, excusez-moi, couvert de cervelle et de sang, devant son capitaine mourant, mais tellement fier d'avoir pris la redoute. Un texte qui saisit, vraiment. Comme le souhaite d'ailleurs Vinet, qui dit dans la préface à ce troisième volume, « Qu'est-ce que l'inspiration ?» Sinon une idée devenue sentiment. Nous ne sommes quelque chose que par nos affections. L'essence d'un texte est bien dans l'âme, pas dans la tête, et quel qu'en soit le sujet, un beau livre, c'est celui qui remue le lecteur jusqu'au fond de ses entrailles. Dans ces années, remuer le jeune Dunan l'a été aussi par une autre lecture haletante, passionnée, qui a duré plus d'un an, de juin 1842 à octobre 1843. Ils sont des millions à avoir subi la même exaltation. C'est la lecture des Mystères de Paris, dont vous avez ici la première parution dans le très sérieux, par ailleurs, Journal des débats. Et en rez-de-chaussée, vous avez le feuilleton, le si fameux feuilleton des Mystères de Paris. En quelques semaines, le journal passe de 3000 abonnés à 10 000. Un journal à 80 francs par an, ce qui est hors de prix pour l'époque. On a des témoignages de gens qui ne vont plus au théâtre pour pouvoir s'offrir l'abonnement au Journal des débats. Ceux qui, enfin, on fait la queue devant les cabinets de lecture où on loue à la demi-heure le journal, chacun fait ses affaires, et ceux qui ne savent pas lire se font raconter les histoires du fameux prince justicier Rodolphe qui va sillonner les bas-fonds pour essayer de rétablir la justice et essayer de retrouver sa fille qui s'avère être, à la fin du roman, je casse le suspense, hein, tant pis, la si belle et fragile Fleur de Marie qui a été obligée de se prostituer pour survivre. On y voit aussi les aventures du brave et très bavard concierge qui s'appelle Pipelet, et c'est d'ailleurs depuis là que nos concierges sont des pipelettes. Toute la France, les pays francophones, se prennent de passion pour les bas-fonds parisiens. On organise des cours d'argot dans les salons, et Théophile Gautier dit même: des malades ont attendu pour mourir la fin des Mystères de Paris. Le magique, la suite à demain, les entraînait de jour en jour, et la mort comprenait qu'il ne serait pas tranquille dans l'autre monde s'il ne connaissait le dénouement de cette bizarre épopée. Bref, les Mohicans de Paris, comme les appelle Alexandre Dumas, extrêmement jaloux d'ailleurs, sont un immense succès, mais pas seulement. Au fil des chapitres, le livre transforme littéralement son auteur. Connu pour être un dandy, il est connu plus pour ses frasques que pour sa fibre sociale. Eugène Sue a d'abord dilapidé consciencieusement la fortune paternelle en soirées fines et en champagne. Et les Mystères de Paris, c'est pour lui une bonne occasion simple et rapide de gagner des sous. Avec un sujet accrocheur, tout à fait dans l'esprit du temps, et une sorte d'exotisme à domicile qui ne pouvait que plaire. Mais c'était sans compter avec les lecteurs. Les lettres arrivent très vite par sac entier au journal, avec comme adresse à monsieur, et je le suis, génial auteur des Mystères de Paris. Un lecteur lui dit: heureusement qu'on vous a, ce n'est pas avec des Hugo que nous pourrions avoir de tels ouvrages. Les Mystères de Paris, c'est sans doute la première œuvre interactive, en temps réel, au jour le jour. Les lecteurs remercient l'auteur de dénoncer les drames sociaux de la misère. Les ouvriers le félicitent de mettre les riches en face de leurs responsabilités, et ils sont sûrs que ce sera beaucoup plus efficace que le sermon des curés, parce que lui sait toucher les âmes. Il suscite des réactions. Et Sue devient, je crois à sa propre surprise, une sorte de prédicateur laïque de la cause sociale. Et il se prend au jeu, et très vite le jeu n'en est plus un. D'abord, il va visiter ses bas-fonds parce qu'il écrivait sur quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il y va avec deux gardes du corps et il va rencontrer ce peuple qu'il décrit, qu'il va commencer à intégrer de véritables anecdotes et des témoignages dans la publication du jeu, donc dans le journal, au jour le jour. Et il commence à y intégrer des suggestions de modifications, notamment une banque des pauvres, dont Marx d'ailleurs va beaucoup rire dans La Sainte Famille, où il fait une critique acerbe de ces Mystères de Paris. Mais enfin, Sue trouve qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et ça va même jusqu'à une forme d'identification. Les lecteurs le supplient de ressembler à son héros. Monsieur écrit une veuve en octobre 43, juste après la parution de la fin des Mystères de Paris. Soyez aussi bon que votre Rodolphe. si bon, si généreux, si compatissant. Il aime tant à faire le bien que j'ai espéré en vous. » Et ça marche. Su, en 1850, se présente dans le camp socialiste aux élections et il est élu député de la Seine. Malheureusement, il n'a pas le temps de faire grand-chose parce que le pouvoir a vraiment très très mal vu ce succès populaire. Donc en 1851, il est parmi les premiers à être forcé à l'exil. Aucune ville en France ne veut l'accueillir, pensez ce trublion. Et c'est finalement à Annecy qu'il viendra se réfugier. Il va être poursuivi par la censure parce qu'il essaye de publier une suite, Les Mystères du Peuple. 60 000 exemplaires sont vendus et saisis et détruits en 57. Le choc est tellement grand que ça hâte sa fin. En fait, les autorités ne lui reprochent rien moins que d'avoir une sérieuse influence sur les barricades de 48. Les mystères de Paris à l'origine du soulèvement de 48. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que sous l'influence de son œuvre, le dandy s'est fait rénovateur social, militant. Et voilà un livre qui a radicalement changé le cours de son existence. Un livre peut donc agir sur la réalité, permettre une interaction au fil des publications avec un public et même transformer l'auteur. En 1953, Dunant, on a une preuve supplémentaire. Lorsqu'il rencontre une femme d'apparence assez réservée, plutôt timide, mais dont l'œuvre et la lecture de l'œuvre vient de le bouleverser, Harriet Beecher Stowe. À la fin du mois de juin 1953, la déjà célèbre auteure de La case de l'oncle Tom fait une grande tournée européenne et parmi les villes qu'elle visite, il y a Genève. Elle séjourne chez Louis-Philippe Fazi, qui est alors professeur de littérature, un cousin d'ailleurs du général Dufour. C'est peut-être pour ça que Dunant a été invité. Et sa femme, Harriet Beecher Stowe, est surtout l'invitée de la femme de M. Fazi, Helena Meyer, qui est en fait la fille du consul britannique à Varsovie. Et c'est à Londres, semble-t-il, qu'ils se sont rencontrés. Dunant dresse quelques décennies plus tard un bref et assez pertinent portrait de cette femme. Sa modestie et sa simplicité étaient grandes. Effectivement, Harriet Beecher Stowe était assez terrorisée par toutes ses soirées dans les salons. C'était bien la cause de l'humanité qu'elle plaidait dans la vieille Europe. Sa douce et aimable figure prévenait tout le monde en sa faveur. Il note quand même un petit bémol, un bigotisme calviniste et un puritanisme que même lui juge un peu exagéré. Lorsque le roman paraît, en deux volumes aux États-Unis, on est à la fin, au milieu de l'année 52, il s'en vend 10 000 exemplaires en une semaine et sans doute plus de 300 000 en une année, rien qu'aux États-Unis. C'est aux États-Unis le roman le plus vendu du 19e siècle et le second livre, après la Bible quand même, le plus vendu de ce siècle. En moins de 5 ans, on dénombre plus de 20 traductions. C'est le premier roman américain traduit en chinois. Et le raz-de-marée est encore plus important lorsque l'ouvrage arrive en Europe. En un an, 18 éditeurs et plus de 40 éditions s'emparent du livre à Londres. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc effectivement, c'est un succès à bon marché. Dans tout le Royaume-Uni, avec les colonies, donc, en un an, se vendent 1,5 million d'exemplaires. Alors même que d'habitude, les œuvres américaines ont très peu de succès en Angleterre, à part quelques textes d'Irving et un peu Fenimore Cooper. Mais vous savez que les Anglais apprécient assez peu les Américains. Mais là, même la reine Victoria pleure en lisant le texte, exactement d'ailleurs comme sans doute l'essentiel de sa domesticité. Mais pas seulement sur l'esclave. Elle pleure, mais je pense qu'il y a une sorte de joie mauvaise aussi des Anglais qui voient la confirmation de leur mauvaise opinion des Américains qui n'arrêtent pas de leur faire la leçon avec leur fameuse démocratie, mais qui en fait font des choses épouvantables qui montrent bien la supériorité britannique. En France, la fièvre est à peu près semblable. On ne sait pas très bien au début ce qui va se passer. Toujours est-il que 4 journaux le publient en roman feuilleton simultanément, dans 4 traductions différentes. Et dans des titres, on va le voir tout de suite un peu différentes. Alors c'est tantôt la case, tantôt la cabane, on va y revenir. Le Charivari, le journal satirique de Paris, ne manque pas de s'amuser là-dessus. Il dit voilà, floraison de cabane, de case, chaumière, et bientôt peut-être pavillon, cottage et autres bungalows. La plaisanterie mise à part, je ne sais pas quelle édition a lu Henri Dunant. Celle de la presse qui annonce pour la publicité au moins 100 000 ou 150 000 exemplaires déjà vendus. Le siècle, une semaine après, lui annonce 400 000 exemplaires déjà vendus. Ne manquez pas l'occasion. Mais aussi peut-être les éditions qui circulent en livre. C'est la même traduction, hein, la case du Père Tom ou le Père Tom. Ça fait partie des variantes du titre. C'est le même traducteur, mais dans l'édition publiée à Genève en 1953, le traducteur explique que comme la case ou la cabane ne joue pas grand rôle dans le texte, autant l'enlever du titre. La vision qu'on a de la traduction est un peu flottante encore à cette époque-là. Mais en tout cas, le texte le touche, c'est certain. Je ne sais pas non plus, mais je pense qu'en fait Henri Dunant a aussi lu en 1953 la clé de la case de l'oncle Tom. La case de l'oncle Tom a été extrêmement discutée aux États-Unis. Ça a complètement bouleversé la vie d'Harriet Beecher Stowe. Il y a eu un vrai clivage, évidemment, entre le Nord et le Sud. Le Nord portant au nu ce texte, le Sud expliquant qu'il ne s'agit que d'un roman et que d'ailleurs Madame Beecher Stowe n'est jamais allée au Sud, ce qui est vrai. Et elle se sent obligée de publier l'histoire, les documents, qu'en fait, qu'elle dit avoir consulté, mais qu'en fait elle n'a pas consulté, elle les a lus après la publication du roman. Donc elle est vraiment mal prise, imaginez, elle va jusqu'à recevoir des menaces de mort et elle reçoit même un jour un colis. Avec l'oreille d'un noir fraîchement coupé. Donc sa vie en a été profondément bouleversée, celle du continent américain aussi sans doute, et plus largement aussi celle du monde. En France, on s'interroge, pourquoi ce succès? La France, l'esclavage, ça ne la concerne plus vraiment. En plus, tout le monde le reconnaît, le livre est mal fait. Trop de détails. Madame Beecher Stowe ne sait pas écrire, mais George Sand, en décembre 1952, dit « Mais qu'est-ce que le talent face au génie ?» Un génie dont l'humanité sent qu'elle a besoin, le génie du bien. Le génie, c'est le cœur, la puissance, c'est la foi, le talent, c'est la sincérité, et finalement le succès, c'est la sympathie. Cette femme, termine Sand, est une sainte, pas davantage. Pour Charles Secrétan dans la Revue Suisse, en décembre toujours de cette même année 1952, ce qui peut passer pour de l'inexpérience dans ce livre, c'est en fait la simplicité des moyens, l'absence de ficelles, d'effets, de paillettes, de clinquants. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est du métal pur, dit-il. Un ouvrage humain, profond, universel. Tout l'effet de l'art, sans que l'art ne paraisse. Et Secrétan est manifestement très admiratif. Un acte, donc, plutôt qu'une œuvre d'art, qui survient juste au moment où le public peut s'en saisir. Un livre qui dépasse autant le public auquel il était destiné que la cause qu'il voulait défendre. Un livre de tous les temps, de tous les lieux, qui dénonce finalement les horreurs que les hommes peuvent infliger à d'autres hommes, les faibles, les humbles, les démunis, et qui fournit des pistes, tant à la fin de la case de l'oncle Tom qu'à la fin de la clé de la case de l'oncle Tom. Harriet Beecher Stowe fournit une sorte de marche à suivre pour parvenir au terme de cette abomination. Kafka l'écrit au début du XXe siècle, et je terminerai là-dessus. « Il est bon que la conscience porte de larges plaies. Elle n'en est que plus sensible aux morsures. Il me semble d'ailleurs qu'on ne devrait lire que des livres qui vous mordent et qui vous piquent. Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts loin de tous les hommes. » Comme un suicide. Un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. Eh bien, manifestement, en ce milieu du XIXe siècle, les plaies sont béantes et seront encore aggravées par les horreurs de la guerre de Crimée. Tout est prêt, donc, pour accueillir un livre choc. Je vous remercie.
infiniment, Madame Dubuisson, pour cette allocution extrêmement intéressante et très très vivante, passionnante, vraiment.